Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le roman de la Lune, petite anthologie de 1000 pages de quelques écrits célèbres sur la Lune, publié chez Omnibus en 2009, condense en un volume des textes romanesques et des nouvelles sur notre bon vieux satellite. Les écrivains ont depuis longtemps exploré et investi l'astre lunaire de leur imagination. 40 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune en juillet 1969, et aujourd'hui, avec nous pour parler de ses explorations littéraires, de ses voyages imaginaires, j'accueille Claude Aziza, l'auteur de cette anthologie, latiniste renommé, infatigable organisateur de festivals, écrivain, historien, éditeur, découvreur d'inédits. Claude Aziza, bonjour.
Bonjour.
Claude Aziza, vous avez plus d'une corde à votre arc. Vous êtes un universitaire honoraire distingué de langue et de littérature latine de l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes le président de l'ARELAP, l'Association pour la recherche et l'étude de l'Antiquité plurielle, et vous êtes aussi un collaborateur régulier aux revues L'Histoire et Le Monde de la Bible. Historien, spécialiste de l'Antiquité, vous avez écrit Néron, le mal-aimé de l'Histoire, dans la collection Découverte Gallimard. Alors vous êtes un grand amateur du genre romanesque, de suite et des pastiches, et vous avez rassemblé dans l'ouvrage Le Roman de la Lune 7 textes fondateurs, des romans, des nouvelles, qui évoquent la Lune dans tous ses états, ses habitants et les moyens de s'y rendre. Alors pourquoi ce saut dans l'espace? Est-ce que vous rêvez de voyage dans la Lune? Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette exploration littéraire, loin de vos sujets habituels sur l'Antiquité?
Merci d'avoir posé cette question. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée longuement, puisque au fond, comme ça, c'est comme ce qui se passe dans l'édition, c'est que de temps en temps, on vous demande est-ce que vous avez une idée. Moi, je suis un grand amateur de science-fiction. J'ai édité beaucoup de Jules Verne, qui n'est pas de la science-fiction. J'ai édité aussi un recueil de nouvelles de Pierre Boulle. Mais pour moi, la science-fiction est américaine. Donc, mon idée, c'était au départ, c'était peut-être qu'on pouvait rassembler quelques grands auteurs américains sur la Lune. Et puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit après tout, pourquoi pas, réunissons des Européens, essayons de trouver une espèce de cheminement depuis Lucien, puisque c'est le premier à avoir envisagé un voyage dans la Lune, même s'il est totalement fantaisiste. De toute façon, tous ces voyages sont fantaisistes. Depuis Lucien jusqu'à Wells, par exemple, et au 20e, Pierre Boulle, on va dire les choses comme ça. Et en rassemblant tous ces textes, c'est-à-dire des romans très connus et des nouvelles complètement inconnues, on a une espèce de mosaïque assez bizarre qui fait qu'on s'aperçoit du cheminement de l'imagination depuis le 2e siècle après Jésus-Christ jusqu'à notre 20e siècle sur la Lune. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les siècles passent, on n'envisage pas du tout le voyage sur la Lune de la même façon. Enfin, il y a beaucoup de variations, mais si j'avais voulu réunir tous les textes, j'aurais une anthologie de 3000 pages. Il aurait fallu que je traduise aussi du latin au français le songe de Kepler qui n'a été traduit qu'en anglais et jamais en français, par exemple.
Donc là, vous avez choisi d'établir une édition avec cet auteur. Vous commencez avec Cyrano de Bergerac, avec Les États et Empires de la Lune. Ensuite, on a Le voyage dans la lune de Louis de Noyer, et puis Aventure sans pareil d'un certain Hans Pfahl d'Edgar Poe, Un voyage à la lune d'Alexandre Dumas, De la terre à la lune de Jules Verne, et puis de Herbert Wells, Les premiers hommes dans la lune, et de Pierre Boulle, Les luniens. Alors, l'anthologie est aussi accompagnée d'un dossier, avec plusieurs documents, on les évoquera peut-être un peu à la fin de l'entretien. Remontons un petit peu l'histoire littéraire. Claude Aziza, quel est le premier écrivain qui s'intéresse à la Lune? Vous l'avez cité, vous en avez parlé, mais que représentait pour les Grecs, pour les anciens, justement, cette Lune qui a ensuite alimenté l'imagination des écrivains que vous avez choisis?
Oui, alors le premier écrivain, c'est Lucien. Et Lucien, que je n'ai pas cité en entier. Alors, la première question, c'est pourquoi n'avoir pas cité Lucien en entier? Pour une raison très simple. Lucien, c'est un grec. Or, il y a énormément d'éditions bilingues, la dernière étant celle des Belles-Lettres, de l'histoire véritable de Lucien. Donc, j'estimais que c'était inutile. Et tant qu'à faire et tant qu'à citer Lucien, il aurait fallu que je cite avec le grec à côté. Donc, j'ai préféré donner quelques extraits significatifs de Lucien, mais quand même, il n'en demeure pas moins que le premier à avoir imaginé un voyage dans la Lune, c'est Lucien. Alors, c'est intéressant parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, dans l'Antiquité, il y a énormément de récits de science-fiction, entre guillemets. Car le premier récit de science-fiction, c'est Gilgamesh. C'est l'histoire de Gilgamesh qui part à la recherche de l'immortalité pour ressusciter son ami Enkidu. Bon. Mais il y a énormément de romanciers dont on ne connaît l'existence que par des résumés. Nous n'avons pas de grands récits de science-fiction, mais on sait qu'il y a énormément de récits qui nous envoient au bout du monde. Alors le bout du monde, c'est les colonnes d'Hercule, hein. C'est quand on franchit donc, le détroit de Gibraltar, là où se trouverait peut-être l'Atlantide, hein. Et puis il y a Thulé. Ouais. Ça, c'est le bout du monde, ça c'est mythique, il y a beaucoup de récits là-dessus. Mais sur la Lune, il n'y a que Lucien. Alors Lucien, c'est un farceur, c'est quelqu'un d'intéressant. Et il a écrit beaucoup de récits satiriques, et quelques récits érotiques d'ailleurs, dialogue de courtisane, que Pierre-Louis a imité ensuite. Et il écrit une histoire véritable, ce qui signifie qu'elle est totalement fausse, bien sûr. Donc il envoie une expédition sur la Lune, et cette expédition va découvrir des choses merveilleuses. Mais comme d'ailleurs les gens de son époque, ce qui l'intéresse, ce n'est pas aller sur la Lune. Ce qui l'intéresse, c'est imaginer des lunaires ou des luniens, peu importe. Voilà. Donc, ce n'est pas très sérieux et c'est pour ça qu'il l'appelle histoire véritable.
Et c'est avec la science que va se développer l'idée de voyage dans la Lune.
Voilà. Alors, comment y aller ? Ensuite, si on a une chronologie un peu serrée, on regrette, par exemple, Rabelais avait songé à faire un voyage dans la Lune. Il ne l'a pas fait, mais on a des récits sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais c'est-à-dire des gens qui, plus ou moins scientifiquement, surtout à partir du XVIe d'ailleurs, à partir du développement de la lunette astronomique, et puis Copernic, bref.
Kepler, etc.
Kepler, puis après Newton, donc Kepler lui-même donc écrit un voyage dans la Lune, mais ces voyages sont de plus en plus scientifiques, ça veut dire que on a bien compris qu'il y avait une atmosphère particulière dans la Lune, qu'il y avait peut-être des problèmes de vie pour l'homme, de mélange d'oxygène, d'hydrogène, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a pas d'eau. Bon, on commence à se poser des questions. Mais on ne s'intéresse vraiment au voyage dans la Lune qu'à partir de Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire, d'accord, on va dans la Lune, comment on fait? Alors, les moyens
Alors,
de
il
Cyrano...
Il est très drôle.
Oui, il est très drôle, mais...
C'est quand même, il invente,
oui.
Son héros s'en va dans l'espace avec des fioles et de la fumée,
on peut le trouver pendant plusieurs jours,
la fin de tenaille, et il arrive sur la Lune.
Voilà. Bon, mais Cyrano
lunaire,
de Bergerac est un homme sérieux.
Et très.
Malgré Edmond Rostand, qui en a donné un portrait tout à fait déformé. C'est un homme très sérieux, c'est ce qu'on appelle un libertin. Au XVIIe, un libertin, c'est quelqu'un qui est capable de critiquer la religion. Ça n'a pas du tout le même sens qu'au XVIIIe siècle. Et puis, il aurait été peut-être un espion de Mazarin, on ne sait jamais. Il aurait été peut-être plutôt homosexuel, ce qui est puni de mort à son époque, on ne sait pas. Il serait mort peut-être, comme l'a dit Rostand, assassiné, on ne le sait pas, vraisemblablement de maladie, et peut-être même d'une syphilis, vraisemblablement. Bref. Mais il a quand même inventé au moins trois choses, ou deux en tout cas, certaines, le magnétophone
oui.
et le parachute. Et c'est Léonard de Vinci qui a inventé l'hélicoptère, enfin du moins le principe de l'hélicoptère. Donc, c'est un inventeur.
Oui, tout à fait. Dans son récit, là, c'est très, très détaillé.
On le voit. Il y a par exemple des livres parlants. Hein, chez Lunia, vous en souvenez, c'est le magnétophone, bien entendu. Bon. Mais c'est quand même un mélange de fantaisie. On ne peut pas dire que ce soit scientifique.
Non, et puis c'est aussi l'esprit de son temps. Il y voit aussi le paradis terrestre.
Oui.
Donc c'est amusant.
Oui, parce que la Lune...
C'est pas si éloigné de l'univers de son époque, quand même.
C'est, hein.
C'est pas de la science-fiction du tout.
Et l'univers de son époque n'est pas encore très scientifique. En fait, il commence à l'être au siècle suivant, et notamment avec Fontenelle, dont j'ai cité des extraits.
Voilà, la fin de l'anthologie.
La pluralité des mondes, si vous voulez. Et c'est le premier Fontenelle, je crois, un des premiers en tout cas à l'avoir dit très clairement, qui envisage le fait qu'il est très possible que l'univers soit habité. Qu'il n'est pas... La loi des grands nombres fait que sur le nombre infini de planètes, et on le pense encore de nos jours, on ne voit pas pourquoi la vie serait née sur une planète qui est tellement mal placée dans une galaxie. Notre galaxie est très mal placée dans l'univers. Elle est dans un coin, à gauche ou à droite. C'est difficile de la trouver. Bon. Et à partir de là, il y a un deuxième élément qui va déclencher les choses, ce sont les premiers voyages en ballon. Or, vous savez bien que le premier voyage en ballon qui a lieu à Paris, il y a évidemment des essais. Et à partir de ce moment-là,
qui va motiver les...
L'imagination tourne. Le problème, c'est comment y aller. Avant, on se disait, on y va, n'importe comment, et on voit ce qui se passe. Après la Montgolfière, on se dit comment on va y aller. Et va tout le long du 19e, la querelle, c'est entre les plus lourds de l'air et les plus lourds que l'air et les plus légers que l'air. Ça, le problème.
Alors justement, comment ont répondu les auteurs que vous avez sélectionnés là, Alexandre Dumas, Jules Verne, tous vont avoir leur réponse et vont aussi se déterminer par rapport à ce que les autres ont écrit
oui.
et dans leur quête de sérieux scientifique
oui.
quand même,
oui.
pour certains.
Bah, c'est-à-dire que Alexandre Dumas et Desnoyers sont des trouvailles.
Voilà.
C'est des trouvailles. Donc Alexandre Dumas, il raconte les mémoires du garde-chasse de son père, moqué. Donc bon, c'est des aigles qui l'entraînent. Desnoyers, c'est autre chose. Non, avec Poe, c'est un peu différent. Hein, parce que, bon, un certain Hans Pfahl,
oui.
c'est un voyage en ballon.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que Jules Verne s'en inspire. C'est-à-dire, Jules Verne écrit dans une lettre à son père que, justement, il a lu la nouvelle de Poe, que Baudelaire vient de traduire. Et donc, il ne fera pas comme lui, mais c'est intéressant. Et vous remarquerez peut-être que les voyages extraordinaires commencent en 65 par 5 semaines en ballon. Alors, le cas de Jules Verne, c'est quand même un cas tout à fait typique des écrivains de l'époque, c'est-à-dire qu'il est avec son ami Nadar, hein, le photographe Nadar, qu'on retrouve sous le nom de Michel Ardan, justement, dans son roman « De la Terre à la Lune ». Il a des vols, si vous voulez. Et en même temps, il fait partie d'une société d'aéronautique. Mais il a bien compris que l'avenir, ce n'est pas les ballons. Ce sont les plus lourds que l'air. Ce qui fait que son roman ne va pas utiliser un ballon, mais va utiliser un obus. Bon. Le problème de Verne, c'est qu'il y a un contresens, à mon avis, total sur Verne. C'est-à-dire que, pour les Français, Verne est le premier auteur de science-fiction. Je crois que c'est totalement faux. Le premier auteur de science-fiction, c'est Wells. À l'époque de Verne, on appelle ça l'anticipation populaire, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Et Wells s'est aussi déterminé par rapport à cet esprit-là de Jules Verne en disant que lui faisait des choses plus scientifiques.
Oui, alors ça, c'est une querelle. En fait, c'est une querelle qui, à la fin de sa vie, Verne est interviewé par une journaliste américaine qui lui dit alors, et Wells, parce que tout le monde lui dit Wells, alors Verne n'est pas content, il dit, bon, enfin... Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que son carburant, le problème de Wells, c'est que son carburant, c'est un carburant imaginaire qui s'appelle la cavorite, qui a été inventé par l'inventeur qui va partir sur la Lune. Bon. Tandis que Verne répond, moi, et effectivement, il a consulté un cousin qui est professeur de mathématiques, moi, j'ai fait des calculs, et donc je sais que telle poussée exercée sur un obus, etc. Il aurait pu ajouter, mais il ne le savait pas, qu'il fait partir sa fusée, son obus du Cap Canaveral. C'est-à-dire qu'il a calculé que la Floride était le meilleur endroit par rapport à la Lune. C'est assez simple à calculer, si vous voulez. Et au fond, la science, dans l'anthologie, s'arrête avec Wells. Parce que j'aurais pu mettre ensuite les écrivains soviétiques, et il y en a beaucoup, des années 20, qui, justement, ont accordé beaucoup de crédit au voyage dans la Lune. Mais j'ai préféré finir l'anthologie par un texte qui date de la guerre froide, qui est un texte de Pierre Boulle, qui est absolument...
Les Luniens.
Bon, si vous l'avez lu, c'est absolument extraordinaire, parce que le problème n'est pas de savoir comment on va dans la Lune, le problème, c'est quand même les bases lunaires. On est en pleine guerre froide, et donc les Américains, c'est rédigé sous forme de lettres, et donc les Américains tombent sur des lunaires, qui sont assez bizarres d'ailleurs, et ces lunaires, mais en fait, ils sont charmants, ces lunaires, on ne les voit pas parce qu'ils ont des casques, au fond, ils sont comme des hommes, mais en mieux. Ils ont une société extraordinaire, égalitaire, fraternelle, il y a même un Américain qui va fraterniser avec une lunaire, etc. Bon, ça c'est très bien. Et les Russes, qui ont débarqué de leur côté, envoient aussi des lettres en disant qu'ils sont tombés. Alors sur des lunaires, on ne peut plus charmant avec ça. Et on s'aperçoit à la fin qu'en fait, les Luniens, puisque Boulle dit Luniens, ce sont les Américains et les Russes, et que l'autre, c'est intéressant parce que... ethnologiquement, c'est le regard sur l'autre. Donc l'autre, finalement, quand c'est un Russe par rapport à un Américain, c'est la guerre froide. Mais si l'autre est considéré comme un Lunien, tout ce qu'il fait est formidable. La démocratie d'un côté, le partage de l'autre, enfin bref, tout ce qu'on se disait à l'époque, quoi. Et ça, c'est magnifique.
Vous commencez avec le Cyrano de Bergerac, Savinien Cyrano de Bergerac, et puis vous terminez aussi avec quelques feuilles qui évoquent le Cyrano de Rostand, qui parle au moment où Cyrano parle de la Lune. Alors ça, c'était pour finir,
parce
pour
que
faire un clin
texte,
d'œil.
Je l'ai édité, j'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs, Cyrano de Bergerac, qui est quand même la pièce de Rostand, a réussi le tour de force à la fin du 19e à concilier ou à réconcilier la gauche et la droite française. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Bon. Mais la description les moyens, sept moyens pour arriver sur la Lune, c'est quand même un grand moment de théâtre et de poésie, quoi.
Alors, de tous ces écrits que vous avez lus de l'Antiquité à nos jours, on va dire, est-ce que les anciens avaient plus d'imagination et comment est-ce qu'évolue cette part de l'imaginaire sur la Lune ?
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la science avance, je ne dis pas que l'imaginaire recule, mais il se modifie. Alors évidemment, il va se modifier chez les auteurs américains. Arthur Clarke, par exemple.
Oui. Là, on n'en a pas dans l'anthologie.
Non, ils sont dans la bibliographie, si vous voulez. Donc, les auteurs américains, dont Arthur Clarke, qui est mort tout récemment, ont vraiment imaginé, d'une façon très scientifique, ce qui pourrait se passer. Le voyage, l'établissement de colonies, ça, c'est scientifique, avec une pointe d'imaginaire, bien sûr. Et puis, on peut même aller plus loin, puisque des auteurs de science-fiction... Que ce soit au cinéma, d'ailleurs.
Oui, parce que vous êtes féru de cinéma,
oui,
passionné du cinéma.
Voilà, imagine qu'il y a des colonies lunaires et que ces colonies lunaires sont des espèces de colonies concentrationnaires. Alors, bon, après, l'imaginaire va se déporter sur Mars depuis la fin du 19e, d'ailleurs. Mais assez bizarrement, il n'y a pas, en France, de grands romans sur Mars. Sinon, une nouvelle de Maupassant qui s'appelle « L'homme de Mars » ou « Un homme se révèle de Mars », par exemple. Il n'y a pas de grands romans sur Mars. En France, hein, au 19e. Il y en a beaucoup aux États-Unis au 20e. Ça, c'est un autre problème, si vous voulez. Et donc, cet imaginaire, il se déplace, il se modifie, mais je crois qu'au fur et à mesure, il perd de son merveilleux.
Donc, le côté féerie, peut-être plus fort dans les sources de l'antiquité littéraire tardive, là, justement, où il y a des récits très fantaisistes, pas forcément sur la Lune, mais il y a toute une littérature de fiction, enfin, de fantasy, à cette époque-là.
C'est le merveilleux.
Le merveilleux,
le côté
féerique.
Le merveilleux n'est pas la science-fiction, pas plus que le fantastique. C'est quand même trois branches de l'imaginaire. Et on peut dire que le merveilleux, c'est les contes de fées. On le retrouve dans la science-fiction, bien sûr, mais le merveilleux, c'est quelque chose dont on sait qu'il n'est pas réalisable et qui joue avec l'imaginaire. Alors que la science-fiction, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas réalisé, mais qui sera forcément réalisable, et que le fantastique, c'est un autre jeu avec l'au-delà, avec les forces de la mort et de la nuit. Ça, c'est encore autre chose.
Et puis, comment est-ce qu'on peut expliquer, même quand on sait scientifiquement qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune, il n'y a pas de vie possible, même on le sait depuis le 19e siècle, les écrivains continuent à imaginer ce monde, un monde, une vie organisée ou pas.
Pas tellement,
on
clairement,
en est pas sûr parce qu'on y a
depuis
pas été
le 19e.
Mais enfin, on le sait quand même.
Oui, mais il y a, jusqu'à la fin du 19e, il y a des querelles entre les savants. Et finalement, c'est tranché. Bon, Flammarion va jouer avec son astronomie populaire, jouera un grand rôle là-dessus. C'est-à-dire, en fait, ce ne sera définitivement tranché. Ce n'est pas encore tranché pour Mars, par exemple. Ce sera définitivement tranché, c'est vrai, au début du 20e, quand on a bien compris que, de toute façon, la Lune est un satellite de la Terre, qu'il est possible d'y installer un astre mort, il est possible d'y installer des bases lunaires, c'est ce qui va être fait en principe dans les 50 ans à venir, peut-être même avant. Mais la différence entre la Lune et Mars, si vous voulez, la Lune excite beaucoup plus les imaginations que Mars, même si à la fin du 19e, l'histoire des canaux de Mars, la planète rouge, tout à fait fantaisiste, hein, mais enfin tout ça a relancé l'imaginaire sur Mars. La Lune, c'est une raison très simple. Mars, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas la planète. La Lune, depuis les origines de l'humanité, on la voit, elle apparaît, elle disparaît. Ça veut dire que contrairement à Mars, la Lune est, avec le Soleil bien sûr, est à l'origine de la plupart des cultes religieux. C'est ça la force, la prégnance de la Lune dans l'imaginaire. C'est qu'avant que ce soit transcrit par l'écriture avec des mots, c'est quelque chose qui est enregistré dans l'inconscient des gens. On va peut-être parler d'un inconscient collectif jungien. Dans l'inconscient des gens, parce que les gens qui, aux origines de l'humanité, les hommes qui voient, qui voyaient, d'ailleurs, regardez le début de 2001, qui voyaient la Lune disparaître, apparaître, le Soleil apparaître, disparaître, ce qui posait quand même un problème. On ne savait jamais s'il allait revenir. Hein. Or,
la même face de la Lune, toujours
pas la même face. Et puis, la Lune a quatre faces, quand même. Quatre faces. D'ailleurs, à partir de là, il y a des légendes mythologiques, bien sûr. Or, le calendrier des premières civilisations a été lunaire. Il l'est toujours dans le judaïsme. C'est un calendrier, et dans l'islam aussi. Donc, ça veut dire qu'on va petit à petit arriver à un culte lunaire qui est un culte féminin, et un culte solaire, qui est un culte masculin. Toutes les civilisations orientales, pré-orientales, ou avec Astarté, Ishtar, Tanit, Isis même si ce n'est pas oriental, tout à fait, sont des civilisations de la mère, de la femme. Alors que les civilisations occidentales, avec Zeus, puis Jupiter, et puis Jéhovah aussi, hein, même pour le monothéisme, sont des civilisations du Père. La réussite du christianisme vient du fait qu'on a réussi à allier la mère, Marie égale Isis, ça, le Père, et en plus on a ajouté le Fils. Donc c'est une réussite, hein, ça faisait l'ensemble, quoi. Et les civilisations, donc c'est pour ça que la Lune joue un très grand rôle dans l'inconscient. Alors à partir de là, bien sûr, on a non seulement les rêveries poétiques, et puis tout l'érotique. Il y a un érotisme extraordinaire sur la Lune.
Dû à cette figure féminine.
Plus que ça. Parce que la Lune, donc les périodes lunaires, bon, c'est évidemment le cycle féminin.
Des mondes imaginés par les écrivains que vous avez choisis là, pour cette anthologie, Claude Aziza, lequel a votre préférence? Des mondes lunaires, quoi.
Oui, oh, c'est le roman de Wells. Parce que le roman de Cyrano est intéressant, mais il est intéressant, à mon avis, hein, au point de vue de l'histoire littéraire. Alors, il a de bons passages. Et puis, je pense que le romancier est masqué par le héros de Rostand, et c'est toujours un peu gênant. Le roman de Verne est, il faut bien le dire, un peu convenu. Hein. Même si, en son temps, il a pu paraître extraordinaire. En plus, les caractères sont peut-être pas toujours forcément très intéressants. Et je trouve que ça manque de tension dramatique, si vous voulez. Parce que finalement, de la Terre à la Lune, il n'allunisse pas. Je préfère, au fond, l'adaptation cinématographique de Méliès,
qu'on a choisi.
Parce qu'au moins, Méliès, les voyageurs allunissent. Et ça, c'est intéressant. Non, le roman le plus intéressant, c'est celui, à mes yeux, c'est celui de Wells, qui est un grand auteur.
Vous feriez une anthologie similaire des films, parce que là, il y en a énormément.
Avec des scénarios, oui. Je voulais mettre tout le scénario du film de Méliès, mais bon, ça n'a pas été possible.
En rapport avec l'écrit de Jules Verne.
Oui. Donc, Verne a été adapté au cinéma. Le film qui en est tiré est un film américain qui n'est pas très bon, qui supprime d'ailleurs le personnage de Michel Ardan. C'est quand même un peu ennuyeux. Wells aussi, on peut dire que ses adaptations ne sont pas bonnes. Contrairement à, par exemple, l'adaptation de 20 milieux sous les mers ou de Voyage au centre de la Terre, qui sont absolument extraordinaires, ou même de La guerre des mondes, bien sûr. Ce n'est pas très, très bon. On les a rarement vus en France. On les trouve très difficilement en DVD, donc c'est gênant. En revanche, quelques films qui ne sont pas tirés d'œuvres littéraires, par exemple, le début de 2001, bien sûr, où la Lune est devenue une espèce de satellite. Oui, c'est un peu comme ça, c'est un départ. Au fond, l'intérêt de la Lune, c'est que c'est une station-service. C'est un départ vers d'autres planètes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, bien sûr, même si c'est relativement près. Dans l'exploration d'espace cinématographique, bien sûr, la Lune est trop proche. Ce n'est pas intéressant, on ne va pas envoyer un vaisseau spatial.
Ça ne l'est plus, disons.
Bah oui, ça ne l'est plus pour le cinéma. Pour le cinéma, ça ne l'est plus. Donc, les grands films cinématographiques de science-fiction sont des films qui envoient les passagers très, très loin. Le thème de la science-fiction, du voyage dans l'espace de la science-fiction, c'est du navire qui va devenir un lieu de vie puisqu'il faudra 4 ou 5 générations pour arriver. Et ça, ce sont des grands films et de grands romans aussi.
Vous auriez envie d'écrire une suite à l'un des textes que vous avez justement édité là, enfin...
Oh, moi, j'en suis totalement incapable. Oh, oui, totalement. Je n'en ai ni le désir, ni les capacités. À la limite, je pourrais écrire une suite au dernier jour de Pompéi ou bien à Ben-Hur.
C'est pour ça que je vous posais la question.
Non, je ne sais pas.
Ce texte-là,
non, c'est pas mon truc. Je suis incapable d'écrire la science-fiction. Et puis, j'avoue que ça ne m'exciterait pas beaucoup d'écrire quelque chose sur un voyage dans la Lune. Moi, c'est un voyage dans le temps, mais ce n'est pas dans l'espace. Si je devais faire un voyage, ce serait un voyage dans la Rome antique.
Ça ne serait pas dans l'espace.
Dans l'espace.
Non. Dans le temps, mais pas dans l'espace. La Lune, c'est vraiment partie de la poésie dans toutes les cultures. Je ne sais pas s'il existe une anthologie des poèmes sur la Lune.
Si.
Vous l'avez écrite ? Vous l'avez faite ?
Non. Non, il y a une anthologie qui date d'un siècle, qui est charmante. D'autant plus qu'on y découvre des poètes totalement oubliés du 19e et en même temps, un nombre extraordinaire de poésies sur la Lune. C'est ça qui est intéressant. Alors que dans notre culture... littéraire et en même temps de l'éducation nationale, si on peut dire les choses comme ça. Bon, en gros, c'est Musset, si vous voulez, Musset. Et puis Lamartine, c'est les romantiques, si vous voulez. Les romantiques rêvent à la Lune. Pourquoi ? Parce que sous les étoiles, sous la Lune, la bien-aimée. Enfin bref, c'est romantique ça. Mais tout au long du siècle, il y a des poésies qui ne sont pas forcément très romantiques sur la Lune. Et je ne les ai pas toutes données, bien sûr, parce que je n'avais pas de place. Mais j'aurais pu faire un omnibus qui aurait été une anthologie. D'ailleurs, je voulais qu'une grande partie d'omnibus soit consacrée à une anthologie exhaustive sur, française, bien sûr, sur la Lune. Bon, alors là aussi, c'est un problème de place, mais j'en ai mis pas mal quand même. C'est quelque chose qui a beaucoup aussi excité les imaginations poétiques et populaires, d'où la chanson « Au clair de la Lune ». Alors, évidemment, on l'interprète comme on veut. Quand on l'a fait chanter par les enfants, « Au clair de la lune, mon ami, ma chandelle est morte », etc., c'est une interprétation. J'en ai une autre, mais j'imagine ici que la décence m'interdirait peut-être de la donner. Mais alors, relisez avec un regard un peu critique « Au clair de la lune » et voyez un peu que peut signifier, si on sait le sens érotique de la lune, « Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu », etc., etc., comme quoi, finalement, comme dans les contes de fées, nous le savons maintenant, on apprend de drôles de choses aux enfants.
Bon, et alors ce cousin Jacques et cette académie lunatique que vous nous faites découvrir, oui, avec un texte qui s'appelle « En route pour la lune », où l'avez-vous déniché ?
Alors là, c'est pas de moi. Dans la bibliographie, j'indiquais aussi une source. Il y a quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait, parce qu'il est mort maintenant, hélas, Pierre Versin, qui est un Suisse, et qui a réuni un livre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est un dictionnaire quasiment de l'imaginaire, qui est formidable. Et il a réuni comme ça à chaque auteur ou à chaque mot. Alors, au mot « lune », on trouve des choses absolument extraordinaires. Et c'est lui qui ensuite, dans un recueil de textes, a trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas ma spécialité, donc j'étais la chercher chez lui, je le dis, et qui a trouvé justement cette histoire de... Alors c'est un journal, hein, du temps de la Révolution, là, quasiment, et qui propose des voyages dans la Lune, mais d'une façon... Alors il y a des gens qui s'inscrivent, bien sûr, et d'une façon tout à fait fantaisiste, et puis il y a un premier voyage où ils arrivent dans la Lune, et vous avez vu dans quoi les voyageurs débarquent. En fait, la Lune, c'est une espèce de fange, hein, c'est de la crotte, si vous voulez, ils marchent dedans.
Et puis avant, dans le texte, là, la vie au public, il fait une annonce.
Oui, enfin, absolument.
Une annonce, un avis, on donne avis aux amateurs qu'il partira bientôt une frégate aérienne pour la Lune.
C'est ça.
Portant un nombre d'hommes suffisant pour faire une colonie. Et l'Académie lunatique qui va fonder cette colonie, jalouse de lui donner toute la réputation dont elle est susceptible, prévient que les personnes qui veulent être du voyage auront la précaution de se faire inscrire chez Le Clapard dans la quinzaine qui suivra la réception de ce numéro. Voilà. Alors la dite frégate, il continue, voilà, etc.
Il y a donc eu en gestation, et ici c'est peut-être intéressant, non seulement un voyage, mais aussi la création d'une académie lunatique.
Donc ça, c'est un petit texte qui fait partie d'un dossier que vous avez composé à la fin de cette anthologie.
Un gros dossier, finalement.
Un gros dossier, finalement, une centaine de pages,
oui,
quand même.
Oui, c'est un gros dossier.
Comment avez-vous fait, justement, quel lien vous avez voulu suggérer entre tous ces voyages lunaires et ces représentations littéraires évoquées là dans le dossier? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre là dans le dossier et pas dans les sept textes que vous avez choisis?
Je vais vous répondre très clairement.
Parce qu'effectivement, ils sont savoureux pour certains.
Oui, mais j'ai mis dans le dossier, sauf pour Lucien... Je pouvais avoir les œuvres complètes de Lucien.
Mais là, vous avez choisi de mettre extrait.
Qu'un extrait. J'ai mis dans le dossier des choses que j'avais en extrait, bien sûr, parce que les œuvres complètes, le texte complet, eût été d'un ennui mortel.
Vous avez choisi les extraits.
Donc, j'ai choisi quelques pages les plus pertinentes, si vous voulez. Bon, voilà, c'est ça, c'est simple. Pour épargner aux lecteurs des lectures un peu... difficile.
On vous remercie pour ce roman de la Lune et ces sept textes choisis. Et puis peut-être que prochainement, vous publierez donc une anthologie de la Lune, mais alors avec la poésie ou bien même le théâtre, je ne sais pas, ou le cinéma.
Je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas.
Vu vos passions multiples et variées, on peut espérer quelque chose peut-être du côté du cinéma.
Peut-être un montage cinématographique.
Un montage cinématographique. Merci Claude Aziza.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre Claude Aziza présenter Le roman de la Lune, publié chez Omnibus en 2009.